les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Nous allons aujourd'hui aborder le thème des élections européennes, et ce, avec Fabienne, Christine et Philippe. Nous verrons ensemble quels en sont les enjeux. Nous ferons un petit retour sur ces valeurs passées, valeurs à venir, valeurs actuelles. Nous passerons aussi par ce qui a été récemment décidé, acté, notamment le pacte migration. Nous essaierons de voir quel est l'impact réel des députés. Et nous parlerons ensuite, et enfin, de l'Europe que l'on veut, de celle que l'on ne veut pas. Fabienne, pourquoi un tel enjeu ?
Peut-être qu'avant de parler de l'enjeu, on peut déjà dire quelle est la position de la LDH par rapport aux élections en général, quelle que soit l'échelle de l'élection. Nous, ça nous intéresse toujours de savoir ce qui sort de ces élections, quels sont les programmes et ce qui sort, quels sont les votes. Parce que ça donne à voir un paysage d'idées. Et nous, ça nous permet de réaffirmer des principes. Les principes qui sont ceux de la démocratie, des libertés, de l'égalité. Et tout ça, c'est pas obsolète, loin de là. Et une fois qu'on a dit ça, on se dit, ben, pourquoi l'Europe ? Parce que les députés européens, les eurodéputés, ils vont être 80 en France. En tout, ils sont 720, mais en France, on va en élire. C'est proportionnel à la démographie, donc en France, on en élit 81. Et ils vont voter des directives et des règlements. Et ces directives et ces règlements vont être applicables, si c'est des règlements directement sur le territoire français, si ce sont des directives, on leur demande un compte, quoi. On dit, voilà, vous avez une directive, il va falloir arriver au but. Après, les moyens appartiennent aux États. Et les prérogatives des eurodéputés, depuis la naissance de l'Union européenne, là, ces prérogatives-là ont été élargies. Très élargies depuis 1986, mais depuis Lisbonne aussi. Et donc maintenant, non seulement ils votent, mais en plus, ils peuvent prendre des initiatives de projets, de suggérer des sujets à mettre au vote. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut, nous, citoyens, faire pression sur ces députés-là qu'on a élus. Et surtout, on peut choisir ceux qu'on veut, enfin, ceux qui représentent nos idées.
Merci beaucoup pour cette introduction. Et si maintenant nous allions du côté du pacte asile-migration, est-ce que vous pouvez nous dire, Christine, d'où il vient ce pacte ?
Alors, ce nouveau pacte des migrations et de l'asile, c'est le fruit de plusieurs années de négociations. Il a été adopté hier par le Conseil de l'Union européenne. Et il est présenté comme une nouvelle donne par rapport à la politique migratoire européenne qui était en œuvre au moment de la dite crise des migrants en 2015, qu'il vaut mieux appeler d'ailleurs crise de l'accueil, puisque petit rappel, les analyses à l'époque du Haut Commissariat aux réfugiés évoquaient la nécessité d'envisager déjà depuis plusieurs années l'accueil de réfugiés en raison des conflits toujours existants au niveau du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Et en 2015, l'Europe s'est trouvée complètement surprise par l'arrivée de plus de 2,3 millions de personnes.
Et que contient-il ce pacte ?
Alors essentiellement, il s'agit de 5 règlements, c'est-à-dire ce ne sont pas des directives, ce sont des textes contraignants qui s'appliquent immédiatement dans les États membres sans que ceux-ci aient besoin de transcrire leur contenu dans leur législation. Il s'appliquera à partir de 2026 et il est construit autour de 3 grandes idées. Comme par exemple, en premier lieu, le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, alors qui va s'exercer à l'aide de différents systèmes. Un système de filtrage obligatoire Alors, cela concernera un certain nombre de personnes. Les personnes qui seront débarquées à la suite d'opérations de sauvetage ou qui seront appréhendées sur le territoire après avoir franchi illégalement les frontières ou les migrants se présentant sans possibilité de visa. Ces personnes, elles seront soumises à des contrôles renforcés d'identité, de santé et de sécurité, sachant que toutes les données collectées seront stockées dans le fichier Eurodac, qui est une base de données européenne accessible à de nombreuses autorités, dont l'objectif est d'assurer le suivi du parcours en Europe des demandeurs d'asile et des personnes en situation régulière. Le deuxième objectif, c'est de déterminer très rapidement la situation des personnes et les orienter sur trois procédures. Une procédure normale, une procédure dite de retour, c'est le terme utilisé pour parler d'expulsion immédiate depuis la frontière, et une nouvelle procédure spécialement mise en œuvre concernant les personnes jugées a priori peu susceptibles d'obtenir la protection, c'est-à-dire venant d'un pays dont moins de 20% des demandeurs obtiennent l'asile. Et concrètement, pendant la procédure de filtrage, pendant la procédure de demande à la frontière et pendant la procédure d'expulsion, ces personnes seront placées dans ce qu'ils appellent des installations frontalières, autrement dit des centres de rétention. La deuxième idée, c'est le principe de la solidarité entre les États membres. Donc, en cas de pression sur le pays de premier accueil, le pacte maintient le principe de solidarité à travers ce qu'on appelle la relocalisation. La nouveauté de ce mécanisme réside dans son caractère dit obligatoire, mais en fait qui est flexible, puisque les États auront le choix soit d'accueillir des demandeurs d'asile relocalisés, soit de verser une contribution financière de 20 000 euros, soit de proposer d'autres moyens de soutien à cette politique par le déploiement de personnel ou de l'aide logistique. Enfin, la troisième idée qui soutient cette politique, c'est l'encouragement des États à traiter avec les pays d'origine et de transit afin de réduire les départs et d'accentuer les retours. C'est une atteinte au droit à demander l'asile. C'est la création d'une fiction juridique, puisque les personnes, bien qu'étant sur le sol européen, seront considérées comme n'y étant pas. C'est la consécration du système des hotspots, imaginé en 2015, avec l'enfermement et la détention, y compris pour les enfants de tout âge. C'est l'instauration d'un vaste régime de surveillance numérique. Et dernière remarque, surtout, rien n'est dit pour la mise en œuvre par les États d'opérations de sauvetage, pour la mise en œuvre de routes de voies légales d'accès et sur la prise en compte de la réalité démographique déclinante de l'Europe.
Après cette réponse très complète concernant le pacte asile-migration, pouvez-vous nous dire, Fabienne, quelle Europe la LDH veut-elle ?
Oui, c'est quelle Europe veut la LDH et sans doute quelle Europe veulent les gens épris de liberté quand même aussi, sûrement. Pour la LDH, l'Europe, comme tous les territoires habités et gouvernés, ça doit rester un espace de liberté, un espace d'état de droit et un espace de démocratie. Alors, quand on a dit ça, on se dit quelles politiques peuvent garantir tous ces principes. Je vais juste donner un petit exemple de ce que viennent de voter les députés européens là, dans ce qu'on appelle leur marathon, là, juste leur dernière séance. Ils viennent de se mettre d'accord pour éliminer du marché européen tous les produits. Alors ça vise un peu la Chine, hein. Tous les produits qui viendraient, qui seraient issus du travail forcé. Bon, c'est pas parfait comme directive, c'est une directive, hein, il me semble. Mais au moins, il y a une petite garantie qui vient se poser là. Même si c'est un petit exemple, mais juste pour illustrer que c'est les parlementaires qui sont en charge de voter ça. Alors, ce que veut la LDH aussi comme Europe, c'est une Europe où l'accès aux droits pour toutes et tous soit garanti. Mais là, en l'occurrence, il y a eu une petite décision qui a été prise sur les travailleurs des plateformes. Ces gars-là qui sont à vélo. Et la décision qui a été prise, alors elle n'est pas... Évidemment, ils ne se sont pas tous mis d'accord. C'est la difficulté, justement, de se mettre d'accord à 27, parce que chacun a des intérêts que n'ont pas forcément les autres. Et ils ont quand même réussi à faire en sorte que, normalement, les travailleurs de ces plateformes-là n'auront plus à prouver, eux, qu'ils sont salariés d'eux, mais ça sera plutôt aux entreprises qui les embauchent de le prouver. C'est-à-dire que jusque-là, c'était à eux de dire, ben voilà, je suis salarié de telle entreprise ou je travaille pour telle. Voilà. Ça fait longtemps. Il y a eu des manifestations énormes dans toute l'Europe de ces travailleurs des plateformes. Bon, comme quoi, il faut rester aussi toujours vigilant pour faire en sorte que des petites choses avancent. Alors, ce n'est pas une grosse avancée parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord sur le contenu, mais il y a des petites choses. La LDH a toujours combattu pour que, de pair, on fasse marcher les changements, enfin, combattre les changements climatiques et la justice sociale. La dernière petite chose concrète sur l'environnement, par exemple, c'est la législation et les parlementaires, là, ils se sont mis d'accord sur une législation pour réduire la réutilisation, le recyclage des emballages. Mais encore une fois, c'est... Au minima, c'est sous la prétention du projet initial. Alors, à chaque fois, on descend quand même en termes de prétention. Et puis, dernier point, peut-être le plus délicat, j'en sais rien, mais une Europe de paix. Mais une Europe de paix et un monde de paix. La LDH, elle réclame depuis février 2022 hein, le retrait des troupes russes d'Ukraine, par exemple. Comment on peut contraindre Israël à cesser de violer impunément le droit international? Comment on peut faire? À l'échelle européenne, par exemple, il serait possible de susciter la prise de mesures contraignantes, par exemple, en suspendant l'accord d'assignation signé en 1995 qui facilite les relations entre Europe et Israël, par exemple. Relations commerciales, entre autres. La vente d'armes, par exemple, la France continue à vendre des armes à l'État d'Israël. Enfin, il y a un truc qui ne va pas, là. Il faudrait supprimer la livraison d'armement. Il faudrait boycotter les produits qui viennent des colonies.
Philippe, de quelle Europe la LDH ne veut pas?
Il y a deux projets de société certainement qui s'affrontent actuellement. D'un côté, un projet basé sur la solidarité et l'ouverture au monde. Et de l'autre, un projet bâti sur le repli sur soi et l'identité nationale. Pour les extrêmes droites, qui évidemment défend le deuxième projet, il ne s'agit pas de défendre les droits de tous et de toutes. Il s'agit de remettre en cause l'égalité des droits et de mettre en place un système où les inégalités et les discriminations seraient la règle. Et dans ce cadre-là, les extrêmes droites exploitent les colères démocratiques, les colères sociales, les colères environnementales. Comme le dit un texte publié dans Libération avant-hier, signé par plus de 70 organisations, pour reprendre son titre, nous appelons à ne pas choisir les extrêmes droites pour exprimer notre colère. Pourquoi? Parce que les extrêmes droites ne proposent rien de sérieux. Tout ce qu'elles nous proposent, c'est s'en prendre à l'autre, désigner les boucs émissaires, pour justement avoir évité de répondre aux problèmes qui sont les problèmes de tous. Deuxièmement, le repli sur soi, le repli sur une identité nationale, le repli sur un passé mythifié. C'est, en troisième lieu, la fragmentation de la société. Comme je le disais tout à l'heure, l'extrême droite cherche à construire la guerre de tous contre tous. Les banlieues contre les centres-villes, les agriculteurs contre les écologistes, les jeunes contre les vieux, les travailleurs contre les chômeurs qui seraient traités d'assistés, etc., etc. Et enfin, en quatrième lieu, l'extrême droite nous propose un système autoritaire derrière lequel l'ensemble de la société devrait marcher au pas. Nous disons que l'extrême droite, c'est l'imposture à tous les niveaux. Si nous reprenons précisément les votes justement des extrêmes droites au Parlement européen, je peux prendre plusieurs exemples que j'ai ici. Sur les droits des femmes, l'extrême droite a voté contre la résolution pour une formation obligatoire des élus contre le harcèlement. L'extrême droite a voté contre la résolution de 2020 condamnant la réglementation polonaise sur l'IVG. Elle a voté contre la résolution sur les écarts de salaire hommes et femmes. Sur l'agriculture, parlons-en de l'agriculture. Elle a voté pour la politique agricole commune, qui est une politique pour la période d'ici 2023-2027 et qui conduit, comme beaucoup de gens le craignent, à une agriculture enfermée dans un productivisme irrespectueux de la santé et de l'environnement. Elle a voté contre la préservation des terres agricoles, donc pour favoriser l'artificialisation des sols. Je peux prendre aussi l'exemple des droits sociaux, des droits pour les salariés. Eh bien, elle a voté contre le renforcement du dialogue social dans l'entreprise et elle a voté contre la construction de l'Europe sociale. Et enfin, si je prends les questions internationales, ces groupes-là ont voté contre la résolution condamnant la répression de la société civile en Russie. Le groupe du Rassemblement national s'était opposé en 2021, c'est-à-dire quelques mois avant l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, s'était opposé à une résolution qui soutenait l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ces groupes ont aussi voté contre l'attribution d'une assistance macro-financière à l'Ukraine. Et enfin, ici, enfin récemment, oui, avant la disparition de Navalny, dans une prison, elles avaient voté contre une résolution dénonçant les conditions d'emprisonnement de l'opposant russe, M. Navalny.
Voilà qui est dit. C'est ici que notre tour d'horizon des élections européennes et de leurs enjeux prend fin. Un grand merci à tous. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le mercredi 26 juin, où nous nous retrouverons à 18h30 sur les ondes de Jet FM, nous vous souhaitons de belles écoutes sur la station des droits et des libertés.